Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Ne pas attendre qu'elles se prennent le mur. Le ministre de l'économie annonce qu'une partie de la dette de certaines entreprises pourrait être annulée.
Une mesure qui se fera au cas par cas et seulement pour celles qui sont le plus affectées par la crise. On vous expliquera tout.
Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. La Cour de cassation confirme son irresponsabilité pénale. Énorme déception pour la famille.
Ce nouveau contretemps dans la campagne de vaccination, le Janssen, stoppé avant même son arrivée. On verra quelles sont les conséquences chez nous en France.
Il est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, Bernard Madoff vient de s'éteindre en prison, il avait 82 ans.
Et puis on ira du côté de Grand-Synthe dans le Nord où un boulanger remue ciel et terre pour empêcher l'expulsion de son apprenti guinéen.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,40% à 6208 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le froid résiste, hein, ça continue demain.
Oui, avec encore des gelées matinales qui se généralisent et qui sont vraiment présentes dans de nombreuses villes. Le ciel sera très dégagé et ensoleillé sur la façade ouest. Beaucoup plus nuageux à l'est avec le retour de la neige demain. Je vous dis tout à la fin du jour.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc peut-être une bouffée d'air pour les entreprises les plus touchées par la crise. Le ministre de l'économie a en tout cas annoncé ce matin qu'une partie de leurs dettes pourrait être annulée, en tout cas pour celles qui sont le plus affectées.
Oui, c'est une question de survie pour certaines sociétés qui ne se relèveront pas sans une aide supplémentaire de l'État, Maud Deschamps.
Exactement. Un grand nombre d'entreprises sont en manque d'activité et n'ont plus de quoi rembourser leurs emprunts ou de payer leurs impôts. D'ici quelques semaines, donc, un dispositif sera mis en place pour proposer d'étaler ou d'annuler partiellement leurs dettes. Tout cela va être étudié au cas par cas, précise-t-on à Bercy. On va faire de la dentelle, m'a-t-on dit. Un objectif clair. Une entreprise saine doit pouvoir survivre à cette crise. On sait que certains secteurs sont particulièrement touchés, comme l'événementiel, où l'activité ne repartira pas au niveau d'avant-crise du jour au lendemain, ou encore l'aéronautique, où il n'y a pas de perspective de reprise avant 2 ou même 3 ans. Et donc, à Bercy, on dit vouloir réagir avant que ces entreprises ne puissent plus se relever. Quant au coût de ce nouveau coup de pouce, il n'y a pas d'enveloppe, nous précisons au ministère, tout en rappelant tout de même que nous sommes dans le quoi qu'il en coûte.
Merci Maud. Maud Descamps du service éco d'Europe 1.
Et suite à ces annonces, Aurélien Fleureau vient de joindre le président de la CGPME, François Asselin. La CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et des Moyennes Entreprises.
C'est l'idée du gouvernement, donc c'est un premier pas. Nous le saluons, nous l'accompagnons et nous continuons à travailler auprès de Bruno Le Maire et de ses équipes pour aller un petit peu au-delà et imaginer ce que pourrait être ce fameux prêt de consolidation qui permettrait vraiment d'éviter à ces entreprises eh bien, tout simplement d'être en défaillance de paiement. Et là, bien évidemment, quand c'est comme ça, eh bien, on peut risquer des faillites en cascade parce que les entreprises, vous savez, sont toutes clients et fournisseurs les unes des autres. Et certaines entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable eh bien, se retrouvent devant un mur de dette qu'elles ne peuvent pas franchir. Et donc, si on ne met pas de mesures spécifiques pour étaler la dette de ces entreprises, ce mur de dette, eh bien, malheureusement, elles vont péricliter alors qu'elles ont un modèle économique tout à fait viable si on leur permet d'étaler ce qu'elles ont accumulé en termes de dette.
François Asselin, le président de la CPME, joint pour Europe 1 par Aurélien Fleureau.
Toujours aucune nouvelle de la petite Mia, 8 ans, enlevée chez sa grand-mère dans les Vosges hier soir.
Oui, près de 24 heures après le lancement de l'alerte enlèvement qui a depuis été retirée. On sait que les ravisseurs se sont fait passer pour des représentants de la protection de l'enfant. Mia pourrait être également accompagnée de sa maman qui n'a pas le droit de la voir seule, elle pourrait constituer cette maman un danger pour son enfant. On y reviendra dans le journal de 19h.
C'est une affaire qui avait bouleversé la France. Le meurtre de Sarah Halimi en 2017, cette sexagénaire juive défenestrée par l'un de ses voisins.
Aujourd'hui, la Cour de cassation vient de confirmer qu'il n'y aurait pas de procès. Son meurtrier a en effet été déclaré irresponsable pénalement, Marion Dubreuil.
Oui, le jour du meurtre, Kobili Traoré avait consommé beaucoup de cannabis et cela a provoqué chez lui une bouffée délirante aiguë. 2 experts psychiatriques sur 3 avaient conclu à l'abolition de son discernement et donc son irresponsabilité pénale. La famille Halimi avait déposé un pourvoi en cassation qui a donc été rejeté. C'est une très grande déception pour Maître Oudy Bloch, l'avocat du frère de Sarah Halimi.
Comment vous voulez expliquer à la famille de Sarah Halimi que la personne qui a frappé à mort pendant 20 minutes Sarah Halimi avec des insultes, des cris d'Allah Akbar, qu'il a ensuite défenestré du 3e étage, que son comportement, que son discernement était aboli. Comment vous voulez expliquer que la chambre de l'instruction, a retenu dans son arrêt la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais que pour autant, il n'avait plus aucun discernement.
La famille Halimi envisage donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est une procédure formelle qui ne pourra pas mener à un procès pénal. La famille doit désormais tirer un trait sur l'espoir de voir le meurtrier de Sarah Halimi traduit en justice. De son côté, l'avocat de Kobili Traoré a salué une décision conforme au droit.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Autre décision de la Cour de cassation. Cet après-midi, elle confirme la relaxe du cardinal Barbarin, l'ancien archevêque de Lyon, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle pour ses silences dans l'affaire Préna. Le politologue Olivier Duhamel reconnaît devant la police les faits d'agression sexuelle dont l'accuse son beau-fils, des faits dévoilés dans le livre de sa belle-fille Camille Kouchner, La Familia Grande.
On parlait hier soir de cette suspicion autour du vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux États-Unis. Eh bien, les autorités américaines ont recommandé une pause après l'apparition de cas graves de caillots sanguins.
Et on attend maintenant les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Ce sera la semaine prochaine. Chez nous, en France, en tout cas, ce vaccin devait être l'un des outils permettant de booster la campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine. Alors Anne Le Gall, concrètement, ça va changer quoi ?
Alors la restriction d'âge aux plus de 55 ans pour le vaccin Janssen, qui a été rappelé par Gabriel Attal ce matin, n'est pas un problème, puisque la vaccination n'est pas ouverte pour l'instant aux Français plus jeunes. Si on a des doses, les injections avec Janssen pourraient donc démarrer la semaine prochaine comme prévu en France. Tout dépendra en fait de l'avis de l'Agence européenne du médicament, qui pour l'instant estime toujours que la balance bénéfice-risque est favorable. Se pose maintenant la question des livraisons, parce que pour l'instant, le laboratoire Johnson & Johnson a suspendu le déploiement de ses vaccins en Europe. 200 000 doses de ce sérum sont déjà arrivées en France et sont en train d'être acheminées vers les médecins et les pharmaciens. Mais nous en attendons 600 000 pour tout le mois d'avril, 8 millions d'ici juin. Et c'est l'avis des experts européens qui permettra sans doute de tout débloquer. Mais si jamais il y a des retards, rappelons quand même qu'en avril-mai, les vaccins Janssen représenteront moins de 16% du total des livraisons attendues en France.
Précision d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Notez que les Danois viennent d'annoncer qu'ils renonçaient définitivement à AstraZeneca. C'est le premier pays d'Europe à le faire. Emmanuel Macron était à Reims cet après-midi auprès de soignants dans un service de pédopsychiatrie. Le Covid fait aussi des ravages sur la santé mentale et notamment celle des plus jeunes.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h07 dans quelques secondes, la suite du journal. La mort de l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, Bernard Madoff, on en parle.
Et puis le combat d'un boulanger pour son apprenti menacé d'expulsion.
A tout de suite. Et dans la suite du journal, on parle de Bernard Madoff. Il était l'escroc de tous les superlatifs. Le financier vient de mourir, on l'a appris en fin de journée en prison.
Oui, Alexis Guillon, on vous retrouve, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Madoff avait 82 ans, figure de Wall Street. C'est au moment de la crise des subprimes que le monde a découvert avec stupéfaction l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Alexis, il purgeait une peine de 150 ans de prison.
Oui, à cause d'une arnaque à 65 milliards de dollars basée sur une pyramide de Ponzi. Un montage financier qui rémunère les anciens clients grâce à l'argent apporté par l'arrivée de nouveaux investisseurs. Bernard Madoff a construit cet édifice pendant 20 ans et tout s'est écroulé en 2008 au moment de la crise financière. Des victimes dans le monde entier, aux États-Unis bien évidemment, mais aussi dans le Golfe Persique. Du jour au lendemain, des fonds d'investissement ont dû expliquer à leurs clients qu'ils avaient tout perdu. Alors comment ce système a-t-il pu exister ? Eh bien, Bernard Madoff était un financier très réputé, petit-fils d'immigrés européens. Il avait entamé sa carrière dans les années 60 pour devenir l'un des noms les plus connus, les plus influents de Wall Street. Fin 2008, il avoue cet énorme mensonge à ses deux fils qu'il le dénonce. Après son procès très médiatisé l'année suivante, il est condamné à 150 ans de prison. Depuis, on savait que Bernard Madoff était en mauvaise santé. Il avait demandé une libération anticipée l'an dernier à cause d'une maladie rénale entrée en phase terminale. À l'époque, il s'était d'ailleurs confié au Washington Post et exprimé des regrets pour ses actes qu'il avait lui-même qualifiés de terrible erreur.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique et de ramener les troupes à la maison. C'est ce que devrait dire ce soir Joe Biden, discours très attendu sur l'Afghanistan. Les soldats américains devraient quitter le pays d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001 qui avaient provoqué l'intervention militaire américaine.
En France, on se souvient de la mobilisation de ce boulanger de Besançon en début d'année. Il avait entamé une grève de la pour protester contre l'expulsion de son apprenti guinéen.
Et il avait gagné d'ailleurs. Eh bien, dans le Nord, à Grande-Synthe, un autre boulanger remue lui aussi ciel et terre, Lionel Gougelot, pour empêcher l'expulsion de son jeune apprenti. Maya, 19 ans, un rassemblement de soutien a d'ailleurs lieu en ce moment, Lionel.
Oui, effectivement, Isabelle est parmi les soutiens du jeune Maya Aïcha, cliente habituelle de la boulangerie, bouleversée par l'histoire de cet orphelin qui a traversé la Méditerranée il y a 4 ans avant d'être placé ici en foyer.
Toutes ces personnes qui sont arrivées de l'étranger dans un canot de sauvetage, du mieux qu'ils ont pu, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont leur place, il n'y a pas de raison, la terre elle est à tous. Je pense qu'il mérite vraiment qu'on lui donne une chance.
Cette chance, ce serait tout simplement une régularisation pour un apprenti qui, depuis 3 ans, fait le bonheur de son patron, Salem Kalfat.
Il pense à travailler, réussir, à arriver à faire mieux, toujours il veut mieux. Il a tellement envie de faire des choses dans sa vie, à mon avis, il réussira. Un garçon comme ça, on ne peut pas le jeter, et on ne peut pas le renvoyer, et on ne peut pas le perdre en France. On a besoin des jeunes comme ça.
Alors aujourd'hui, Maya espère un geste des autorités, lui qui ne voit pas son avenir ailleurs qu'en France.
Je me suis intégré déjà et j'ai été à l'école, j'ai mon travail et j'ai une copine et on s'aime bien et on a l'avenir ensemble. J'aimerais bien ouvrir ma boutique plus tard, devenir patron et ouvrir ma boulangerie. C'est mon objectif aussi.
Et les soutiens se multiplient. Une pétition lancée ici pour la régularisation du jeune Guinéen a déjà rassemblé plus de 20 000 signatures.
Lionel Gougelot à Grande-Synthe dans le Nord pour Europe 1. Allez, rien que pour le plaisir, on voulait aussi vous faire écouter ce soir ce titre qui vient de sortir. Mick Jagger et Dave Grohl en duo quand deux rockstars, le leader des Rolling Stones et celui des Foo Fighters, unissent leurs voix et leurs instruments. Écoutez, ça donne ça. Mick Jagger et Dave Grohl rencontrent au sommet. Ça vous plaît ?
C'est pas mal.
Deux légendes du rock, en tout cas. Le titre s'appelle Easy Sleazy. Ça vient de sortir et si vous êtes bilingue, vous aurez entendu que les deux stars se moquent gentiment de la vie en temps de pandémie, les danses ridicules sur TikTok, les visioconférences et les théories du complot.
Mais c'est pas ce que vous écoutiez tout à l'heure dans votre bureau.
Non.
C'était YouTube.
Exactement.
Merci Isabelle, je vous ai écouté parce qu'on a un bureau côte à côte.
C'est vrai.
Merci Isabelle, à tout à l'heure, 18h30. Le temps avec Anissa Haddadi, c'est à l'ouest que la journée sera demain la plus ensoleillée.
Oui, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, hein, tout le long de la façade ouest, la journée débute sous un ciel complètement dégagé. Avec un soleil déjà très généreux, en face, le long de la façade est, c'est autre chose, un autre scénario. Là, nous avons plus de nuages dans le Grand Est, en Lorraine, en Alsace et jusqu'en Provence. Avec d'ailleurs sur les Vosges, le Jura et les Alpes, le retour de la neige demain après-midi à partir de 700 mètres. En Provence, là aussi, nous avons des nuages menaçants sur la Côte d'Azur avec quelques petites gouttes attendues dans l'après-midi. Sur toute la moitié nord, nous aurons aussi du vent. Demain en particulier sur la Bourgogne, la Normandie, le centre Val-de-Loire, le vent du nord, la fameuse bise qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Cette bise, elle rafraîchit l'atmosphère, déjà qu'il ne fait pas chaud, il va falloir se couvrir demain. Il ne fera que moins 5 degrés à Montluçon, moins 4 à Nevers, moins 3 pour Clermont-Ferrand, moins 2 à Belfort, moins 1 à Mont-de-Marsan, un petit degré à Paris et Lille, 3 pour Ajaccio et 8 à Nice, ça c'est pour le matin.
Oui.
Dans l'après-midi, comptez 8 degrés à Dunkerque, c'est comme aujourd'hui. 11 à Lille, 12 pour Paris, 13 à Lyon, 16 à Bordeaux et 18 la maximale pour Montpellier seulement, alors que nous sommes mi-avril.
Et on verra tout à l'heure si le froid va persister dans les prochains jours à 18h30.
C'est une question que vous me posez souvent, je vais enfin vous donner la réponse.
Merci Anissa, à tout à l'heure.